VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h, temps universel. L'ONU s'est inquiétée aujourd'hui du retour des réfugiés depuis le Cameroun vers le nord-est du Nigeria à Banki, région dévastée par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et où l'accès aux services essentiels est limité. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans une déclaration écrite, estime que la région est mal préparée pour les recevoir. L'armée nigériane a repris la ville de Banki en septembre 2015 après des combats acharnés avec les djihadistes nigériens de Boko Haram, dont l'insurrection a fait au moins 20 000 morts depuis 2009. Le problème des réfugiés se pose aussi au Cameroun. Les autorités font face à une crise d'infrastructures de base dans 16 communes abritant les camps des réfugiés centrafricains. La présence de ces réfugiés met à rude épreuve les modestes infrastructures existantes dans les trois régions du Cameroun où ils vivent. Pour parer à cette crise, le HCR et le gouvernement camerounais ont mis sur pied un plan de soutien aux communes concernées. Reportage à Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julenta.
L'afflux de réfugiés centrafricains a augmenté la demande en infrastructures de base. C'est le cas spécifique de la localité de Menganga, dans l'Adamawa. Aboubakar Kombo, maire de la dite commune.
La commune de Menga a très très vite fait d'accueillir 6000 réfugiés dans un camp installé à Ngam. Mais de là, de temps en temps, ils sont obligés de sortir, qui pour des raisons diverses, et c'est là toujours les conflits agro-pastoraux, par exemple, pour ceux qui se sont déplacés avec leurs troupeaux. De la population, déjà estimée à 21 000, mais passée du simple au triple pratiquement. Entraînant ça, elle a des besoins sur le plan alimentaire, de la sécurité même.
À Kado-Badjiri, à l'est du Cameroun, plus proche de la République centrafricaine, la pression sur les infrastructures sanitaires s'est vite fait ressentir ici. Et c'est loin d'être la seule préoccupation engendrée par l'arrivée de plus de 23 000 réfugiés centrafricains dans cette petite commune, aujourd'hui peuplée de plus de 150 000 âmes. Esther Doué-Yofa, maire de Gado-Badjiri.
Selon les statistiques de mes services d'état civil, nous avons la moyenne de 300 accouchements par mois, pendant que les locaux n'atteignent pas ce nombre. Vous voyez qu'ils ont besoin d'être éduqués. Nous n'avons pas assez d'infrastructures en eau et assainissement.
À Tumboro, dans le nord du Cameroun, 10 164 réfugiés centrafricains sont répartis sur 4 sites dans une commune désormais affaiblie en termes d'offres en infrastructures. Hamadou Haman, deuxième adjoint au maire de la commune de Toboro.
Les infrastructures dans le domaine sanitaire sont devenues insuffisantes. Dans les domaines éducatifs sont devenues insuffisantes. Dans le domaine hydraulique surtout, ça cause tellement de problèmes.
Les interventions précises dans les communes abritant les réfugiés centrafricains au Cameroun s'avèrent donc capitales. C'est la raison d'être du plan de soutien à cette commune, objet d'un accord entre le HCR et le gouvernement camerounais. Lazare Étienne Kouassi, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Cameroun.
Il était temps peut-être de changer l'approche pour faire en sorte que les réfugiés, au moins pendant leur séjour ici au Cameroun, ils arrivent à un niveau de résilience, d'autonomisation. C'est donc de renforcer la capacité des réfugiés en même temps que celle des populations qu'ils accueillent pour le mieux vivre ensemble.
Sur plus de 260 000 réfugiés centrafricains recensés au Cameroun, près de 70% côtoient les populations hautes, augmentant ainsi la crise en infrastructure de base. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Les handicapés sont particulièrement vulnérables en première ligne des violences en Centrafrique, dénonce un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié ce mercredi qui appelle à une meilleure prise en charge de ce groupe marginalisé. L'ONG de défense des droits de l'homme appelle le gouvernement et les divers organes des Nations Unies en Centrafrique à une meilleure prise en charge des handicapés dans le pays, espérant que l'accord de paix de Sant'Egidio, signé lundi entre les autorités et 13 groupes armés, offrira une occasion d'aider ce groupe maltraité et marginalisé. Au lendemain donc de cet accord, au moins 40 personnes ont été tuées à Bria, dans le centre du pays, dans des combats entre groupes armés impliquant un signataire de Sant'Egidio, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, un des principaux groupes armés de l'ex-coalition musulmane Séléka.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
11h05 à Bamako. Un vote est prévu aujourd'hui au Conseil de sécurité sur un projet de résolution qui doit ouvrir la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Les précisions, Yacouba Ouedraogo.
Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont accepté de constituer une force de 5000 hommes pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes dans la région du Sahel. Un premier projet de résolution présenté par la France voulait que le Conseil de sécurité donne son feu vert. Les États-Unis étaient opposés, mais le nouveau projet salue le déploiement de la force du G5 Sahel pour amener la paix et la sécurité dans la région. La France a lancé en 2013 une intervention militaire pour chasser les djihadistes du nord malien. L'opération Barkhane se poursuit dans la bande sahélo-saharienne et sera renforcée si ce projet de résolution est adopté aujourd'hui.
Le président malien a semblé faire marche arrière dans son projet de révision constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit prêt à retirer le projet. Une première après les différentes manifestations de protestation. Kassim Traoré, notre correspondant, nous en dit plus.
C'est lors de la présentation de la Charte pour la paix que le président Ibeka a donné son avis sur la révision constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta veut que la Constitution prenne en compte quelques aspects de l'accord issu du processus d'Alger.
Pour le confort dans le système démocratique et la conformité dans cet exercice de recherche de paix nous conduit aujourd'hui à l'exercice de révision constitutionnelle pour créer des conditions nouvelles, de vivre ensemble mieux, harmonieusement. Nul mandat à proroger ou à prolonger ou à multiplier par je sais combien, non pas pour faire un homme d'État plus fort, plus orgueilleux, plus vaniteux, sûrement pas.
La grogne de la rue, les contestations autour du référendum, plus l'insécurité dans le pays, poussent le président malien à revoir sa copie.
Il y a certaines choses qui peuvent, avec intelligence, et dès lors que l'ensemble en aurait convenu, être différé dans le temps, mais jamais empêché d'être. Ce serait remettre en cause l'essentiel. Et nul n'a le droit de remettre en cause l'essentiel.
Avant de prendre une décision finale, le président Ibeka a rencontré les présidents des institutions, les leaders religieux. Il va aussi échanger avec la classe politique, toutes tendances confondues. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un hélicoptère militaire soudanais s'est écrasé dans le nord du Soudan, tuant 4 membres d'équipage, indiqué l'armée. L'appareil Mi-17 de fabrication soviétique s'est écrasé mardi soir en raison du mauvais temps à Dongola, capitale de l'État du Nord, après avoir décollé pour une mission, a précisé un porte-parole de l'armée, le général de brigade Ahmed Khalifa Chami. Les 4 membres d'équipage à bord sont morts, a-t-il ajouté dans un communiqué. L'Égypte a entamé aujourd'hui la livraison d'1 million de litres de carburant aux 2 millions de Gazaouis qui ne disposent plus que de 2 heures de courant par jour. Le carburant égyptien va être transporté par 22 camions via le terminal de Rafah, la seule ouverture de Gaza sur le monde qui ne soit pas tenue par Israël. Depuis qu'Israël a réduit ses livraisons d'électricité à Gaza lundi, l'ONU et les humanitaires ne cessaient de mettre en garde contre un effondrement total de la petite enclave palestinienne soumise depuis 10 ans à un sévère blocus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'homme abattu mardi soir par des militaires dans une gare de Bruxelles après avoir déclenché une explosion est de nationalité marocaine et âgé de 36 ans, a indiqué aujourd'hui le parquet fédéral belge lors d'une conférence de presse. La personne a été identifiée comme étant OZ, a précisé le porte-parole du parquet qui n'a donné que les initiales du nom. Il est né le 20 janvier 1981 et de nationalité marocaine, a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'était pas connu pour des faits de terrorisme. Par ailleurs, le bagage qui a explosé contenait des clous et des bouteilles de gaz, toujours selon le parquet. La ministre française des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, va quitter le gouvernement et prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Cette annonce suit celle de mardi du départ de la ministre des Armées, Sylvie Goulard, et aujourd'hui du ministre de la Justice, François Bayrou. Les 3 ministres issus du Modem quittent le gouvernement français alors que ce parti fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses assistants parlementaires. Et puis ici aux États-Unis, la candidate républicaine Karen Handel l'a emporté mardi face à son concurrent démocrate John Ossoff dans un scrutin législatif partiel qui avait été largement considéré comme une sorte de référendum au sujet de la présidence de Donald Trump. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie d'Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.